France Culture.
France Culture, être et savoir. Louise Touraine.
Et bienvenue dans Être et savoir, le magazine de l'éducation de France Culture, le mercredi à 14h et en podcast aujourd'hui, l'enfant qui inquiète avec le sociologue Alain Ehrenberg. En cette semaine d'information sur la santé mentale, ce numéro d'Être et Savoir se saisit d'un livre, L'enfant qui inquiète, pour analyser les fondements et la nature changeante des préoccupations à l'endroit du bien-être et de la santé mentale des enfants et des adolescents. Dans son essai, qui paraît ce 15 octobre, Alain Ehrenberg propose une histoire de la conception moderne de l'enfance. Il montre comment l'avènement de l'idée que l'enfant est une personne, par exemple, a transformé, transfiguré notre posture de parent, de professeur, d'éducatrice et d'éducateur. Il faut dire qu'Alain Ehrenberg travaille depuis des décennies sur, je le cite, « les transformations de la liberté ». Et de l'égalité par les valeurs et les normes de l'autonomie à travers le vaste domaine de la santé mentale. Il interroge, je le cite toujours, les articulations entre le commun et le chacun dans une forme de vie imprégnée par les représentations collectives de l'autonomie. Ce terme, autonomie, va beaucoup nous intéresser dans cette heure parce que cette qualité, si d'ailleurs c'en est une, est omniprésente et ultra valorisée dans le champ éducatif et parce qu'elle est source de bien des malentendus. L'ouvrage « L'enfant qui inquiète » s'avère particulièrement stimulant car les objectifs d'épanouissement personnel, de réalisation de soi ou encore de devenir acteur de sa vie véhiculent leur lot de sentiments d'échec. Et ça, Alain Ehrenberg en a déjà parlé dans d'autres livres. Et donc, si tant d'adultes ressentent une fatigue d'être soi, pourquoi appliquer ces normes individuelles à l'éducation ? Et à l'enfance. Bonjour Alain Ehrenberg.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, je l'ai dit, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous avez en particulier donc publié La fatigue d'être soi, c'était en 1998, et La société du malaise, et maintenant L'enfant qui inquiète, toujours chez Odile Jacob. Déjà, pourquoi ce titre, L'enfant qui inquiète, un titre qui inquiète en lui-même des parents inquiets, les parents de notre époque. Et d'ailleurs, est-ce que chaque enfant ne peut pas être un enfant qui inquiète ?
Oui, l'inquiétude n'est pas seulement la spécification de l'enfant, elle est une spécification de chaque être humain dans ce type de société. Donc, l'idée, c'est de comprendre les manières de s'occuper, d'intervenir sur les enfants à problème, souffrants, délinquants. Par exemple, la notion de souffrance psychique pour l'enfant est une notion comme référence de l'action, mmh. est une notion extrêmement récente. Ça n'existe pas au 19e siècle, ni même pendant une bonne partie du 20e siècle. Enfin, bien sûr, ça existe en psychiatrie, surtout à partir de l'après-deuxième guerre mondiale, mais à un moment, les psychiatres ont dit le fou ne fait pas que délirer, il souffre aussi. Donc il y a une histoire de la souffrance psychique. Et donc, comme vous l'avez dit, mon travail, c'est de donner des perspectives socio-historiques sur la société individualiste contemporaine, qui est caractérisée par toutes sortes de tensions. La société individualiste contemporaine, disons que sa représentation collective dominante, majeure, représentation collective, c'est un concept d'Émile Durkheim, 1850-1917, le fondateur de la sociologie, c'est l'intrication à la fois d'idées, c'est l'aspect cognitif, de valeurs, c'est l'aspect aspiration, et de normes, c'est l'aspect contrainte. Donc tout ça s'entremêle dans la vie sociale, et ces représentations guident nos manières de penser, de vivre et d'agir en société. Et la normativité de l'autonomie, donc une normativité relativement récente, crée des tensions qui s'expriment en termes de santé mentale et de souffrance psychique.
On va revenir à l'autonomie. Je voudrais m'arrêter sur un terme, celui de tension. Dans cette enquête socio-historique, vous ne regrettez pas spécialement le passé, si on se réfère au 19e siècle, vous venez d'en parler, Alain Ehrenberg, bon, il fallait correspondre à un certain nombre de canons sociaux préétablis, celui de sa classe sociale, celui peut-être de son groupe d'âge ou de son genre. Évidemment, on est passé dans un autre régime, et cette inquiétude, finalement, c'est un mot qui évoque plus la tension qu'une situation qu'il faudrait déplorer par rapport à une période précédente.
Oui, enfin, pas seulement au XIXe siècle, parce que c'est beaucoup, oui, c'est
beaucoup
trop loin,
mais
disons, la comparaison souvent d'une décadence de la société, elle se fait par rapport au, disons, à l'époque des Trente Glorieuses, quoi, 45, 75, 80. Alors vous dites, avant, il y a des canons sociaux, il y a toujours des canons sociaux, mais ils ne se présentent pas de la même manière. Dans la société de ce que j'appelle l'autonomie normative, c'est-à-dire d'une attente collective à l'égard de l'autonomie individuelle, la norme sociale, elle fonctionne, et là je reprends l'expression d'un, je trouve très, très juste, d'un sociologue néerlandais qui s'appelle Cas Wouters, W-O-U-T-E-R-S, il parle de la contrainte de la non-contrainte. Donc, c'est une manière d'exprimer, évidemment, les canons sociaux, mais la forme que prend aujourd'hui le canon social et la manière dont elle intervient. Et oui, je parle en termes de tension, notamment par rapport à une idée qui est dominante, c'est-à-dire qu'il y a un déclin de l'idée de société, quand j'ai commencé à le dire, c'est-à-dire on parle de crise du lien social, de la solidarité collective, de précarisation de l'existence, etc. Et je dis que là, on a affaire plutôt à une approche normative, c'est bien, c'est mal, à laquelle il y a un livre célèbre qui a lancé le thème, c'était un historien américain, Christopher Lasch, qui est mort il n'y a pas longtemps, en 78, il a lancé en 77 un livre qui s'appelle La culture du narcissisme, qui a connu un succès mondial et qui explique que l'individu est devenu narcissique et donc qu'autour de ça, le lien social se perd. Et donc, je crois que je parle de tension parce que par rapport à cette idée qu'il y a un déclin du lien social, je crois qu'il y a une confusion, qui est une vieille confusion de nos sociétés, mais qui a en même temps sa raison d'être. C'est une confusion entre individu et individualisme. Et c'est déjà très bien expliqué par Émile Durkheim en 1898 dans un article qui s'appelle Les intellectuels et l'affaire Dreyfus. Pourquoi les intellectuels? Parce qu'ils étaient accusés par l'extrême droite d'être des individualistes qui détruisent la société. Et il explique que l'individualisme n'a aucun rapport avec l'individuel. Que l'individualisme, c'est une forme de société. Toute société s'intéresse à l'individu, c'est-à-dire à la particularité individuelle, que ce soit une société de caste indienne, une société du lignage traditionnel africaine, mais seules nos sociétés donnent à l'individu la valeur suprême. Ailleurs, c'est subordonné à l'interdépendance qui se monte dans la hiérarchie. Et chez nous, justement, la hiérarchie, c'est quelque chose de contesté, etc., etc. Ça se monte pas dans la hiérarchie parce que, au fond, l'interdépendance sociale est subordonnée aux valeurs d'indépendance individuelle. De là, ces tensions et de là, le sentiment d'un déclin de l'obligation sociale. Durkheim, pour la dernière fois, j'espère, le dit en 1906 dans un article, il dit « Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un déclin du lien social alors qu'il s'agit de l'obligation sociale, alors qu'il s'agit d'un changement de l'obligation sociale. » Et c'est comme ça que je raisonne, c'est-à-dire comment change l'obligation sociale, les contraintes sociales, où se mêlent donc l'aspect cognitif, l'aspect aspiration et l'aspect normatif.
Et ça pose tellement de questions à l'école. Alors l'école, vous en parlez, mais pas tant que ça dans ce livre, Alain Ehrenberg. Mais la question pour moi que ça pose à l'école, à la classe même peut-être, hein, cet endroit où on est en groupe, mais où on est évalué en tant qu'individu, où on travaille ensemble, mais tout à fait séparément et pour soi, c'est cette tension d'élèves qui demandent à être reconnus parfois dans leur particularité, avec parfois des troubles, pas toujours, parfois simplement des aptitudes qui ne peuvent pas toujours l'être parce que la culture scolaire, eh bien c'est une culture ancienne, donc qui s'appuie plutôt sur l'idée d'une conformité de l'enfant à son statut d'élève et donc à une norme de groupe qui est très très forte et qui s'impose encore dans une tension justement avec ce besoin, non pas d'individualisme, mais d'être considéré en tant qu'individu.
Oui, considéré en tant qu'individu, en même temps que se produit un apprentissage de la coopération. C'est pas du tout contradictoire, c'est-à-dire suivre son chemin, si tant est qu'il y en ait un, c'est pas, comment dire, suivre un chemin de l'isolation, etc. Ce qu'exprime l'idée d'individu narcissique, c'est un apprentissage de la coopération dans, disons, une vie sociale qui ne fonctionne plus à, comment dire, à une régulation extrêmement formalisée des comportements qu'on appelle la discipline. Dans l'entreprise, par exemple, donc c'est l'adulte, bien sûr, mais la formation de l'enfant, c'est pour qu'il devienne un adulte dans la mesure le plus autonome possible, enfin dans la plus large mesure possible. Bon, je vais pas entrer dans les détails. Et donc, au niveau de l'entreprise, on est passé de forme de, disons, de commandement par les ordres à un commandement, donc qui exige une obéissance mécanique, à des formes de commandement plutôt par la négociation, qui exige des formes d'engagement subjectif et donc qui la mettent en avant la psychologie personnelle, disons, des individus. Donc, la santé mentale à l'école, c'est quelque chose de relativement récent, et la notion de bien-être encore plus. La santé mentale, institutionnellement parlant, disons, il y a deux circulaires de mars 90, une pour l'adulte, une pour l'enfant, qui spécifient deux choses. Il faut s'étendre bien au-delà, c'est la préoccupation, bien au-delà des troubles psychotiques. Et deux, il faut systématiser l'offre de soins et de prise en charge en ambulatoire, c'est-à-dire ce que tout le monde connaît, les centres médico-psychologiques, les hôpitaux de jour, etc., etc.
Dans cette société où l'école doit aussi prendre en compte l'individu et ses problèmes éventuels, l'individu enfant, eh bien, on a affaire aussi à une pénurie d'adultes pour répondre à des besoins qui sont peut-être des besoins nouveaux concernant la santé mentale. On en parle très très souvent dans cette émission, on en parle en particulier en cette semaine d'octobre qui est consacrée.
L'accès à l'information, il est quand même meilleur. Il reste inégal hein, dans les populations les plus défavorisées, qui ont moins accès aux ressources francophones, etc. C'est plus difficile, mais en pratique, il manque effectivement de personnel, et notamment dans les centres de consultation publique, les CMP, centres médico-psychologiques, où il peut y avoir, y compris en Île-de-France, jusqu'à 18 mois d'attente pour un premier rendez-vous. Donc ça répond évidemment pas à l'urgence quand il y a urgence, et notamment des pédopsychiatres, mais ça vaut pour pas mal de soignants en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et aussi en psychiatrie adulte. Effectivement, on espère que, au-delà des moyens humains, l'idée c'est aussi de réfléchir à plein de stratégies innovantes via aussi Internet et les outils de téléconsultation, etc.
Vincent Trébossène, qui est médecin psychiatre au service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de l'hôpital Robert Debré, il était interviewé dans 28 minutes. En fait, on parle beaucoup plus de la pédopsychiatrie qui inquiète par manque de moyens, du manque d'infirmières scolaires, de médecins scolaires, d'adultes pour répondre aux besoins des enfants, et moins de l'enfant qui inquiète. Comment vous regardez, vous qui êtes sociologue à la Ehrenberg, ce discours sur le manque de moyens, sans dire qu'il n'y a pas de manque de moyens, évidemment, aujourd'hui, quand on parle de pédopsychiatrie?
Le manque de moyens des personnels, pas simplement de profs, mais aussi les assistants de vie sociale, etc., etc. En pédopsychiatrie, ça a été rappelé par votre interlocuteur. Bon, ça c'est une constante depuis je ne sais pas combien de temps, mais depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une offre de soins qui s'est développée, de prise en charge, mais en même temps une demande qui s'est développée. Et donc, évidemment, tout ça, ça fait une dynamique. Et très certainement, même si on augmente les moyens, il y aura toujours insuffisance de moyens. 6 mois pour une urgence suicidaire, etc., etc. C'est évidemment difficilement compréhensible. Malheureusement, c'est ainsi. Et donc cette question de la pathologie mentale à l'école a commencé évidemment à se poser depuis disons une trentaine d'années, et en même temps que la préoccupation du bien-être s'est développée, c'est-à-dire que la santé mentale, c'est pas comme la psychiatrie juste la lutte contre les pathologies mentales, c'est aussi la recherche du bien-être. Pourquoi ? C'est ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle la santé mentale positive, c'est-à-dire le bien-être, ça permet à la fois de prévenir la souffrance psychique, enfin relativement, etc. Mais en même temps, comme le dit l'OMS, de se confronter aux aléas de l'existence. Autrement dit, on dépasse largement la médecine. Se confronter aux aléas de l'existence, c'est ce qu'on peut appeler, je reprends l'expression d'un philosophe britannique, Peter Winch, c'est une attitude à l'égard de l'aléa, de l'infortune, de la conjoncture. Et nous, les aléas tournent autour de l'avenir de l'individu, de sa socialité. Or, la caractéristique des troubles de santé mentale, ce que n'est pas le cancer ou la maladie cardiovasculaire, ce sont des troubles qui atteignent la socialité, la socialisation de l'enfant comme de l'adulte. Une dépression, ça peut entraîner une inhibition de l'action et donc atteindre la socialité, etc. Le trouble des conduites, c'est-à-dire des comportements violents, ça fait exploser la relation sociale dans l'école, etc. Donc c'est la spécificité de la santé mentale, les troubles de la socialisation, et ces troubles prennent une importance majeure précisément parce qu'on est rentré dans une société où l'autonomie est devenue normative et donc les tensions de cette autonomie s'expriment de cette manière. Donc on ne peut pas dire qu'on laisse, qu'il y a juste une pression sociale, etc. Il faut dire que c'est aussi l'envers de nos aspirations à l'autonomie, à l'épanouissement personnel, etc. etc., etc. Donc, c'est pas anormal qu'une société vive avec certains types de tensions. C'est sûr que ce ne sont pas celles de, disons, de la première moitié du XXe siècle.
Et puisqu'on parle d'autonomie, je vous propose d'écouter bien Françoise Dolto.
Les adultes ont peur de ce... Si on les laissait faire, mais il y aurait plus de règles, soi-disant. Oui. Alors qu'un être humain, quand il est aimé et respecté, et qu'on lui donne les règles de vie d'un humain, et il est très reconnaissant, mais il reste libre. Et ce qu'il faut, c'est élever les enfants, à les laisser autonomes et libres de leurs initiatives, et surtout reconnaître qu'on ne peut pas satisfaire tous les désirs des enfants, impossible, puisqu'ils ont des désirs qui sont impossibles à satisfaire, mais toujours reconnaître que leurs désirs sont valables, même si on ne les satisfait pas.
Françoise Dolto dans l'émission Agora en 1985. C'est la généralisation d'une norme d'autonomie qui commence ou se prolonge peut-être à cette période. En tout cas, aujourd'hui, travailler en autonomie, les élèves savent parfaitement ce que ça veut dire et dès la maternelle, sans que on comprenne, nous, forcément adultes, en quoi ça consiste et vers quoi ça va. Vous, Alain Renberg, vous pensez qu'être responsable de soi, c'est une sacrée responsabilité. Est-ce que on peut dire que ça pèse aussi sur les enfants? Ça ne fait pas qu'organiser une certaine modalité du travail en classe?
Sans doute, mais ce qui pèse sur les enfants ne s'exprime pas avec le mot responsabilité. C'est il faut réussir, etc., etc. Bon, ça rentre plutôt dans cette question de la réussite scolaire, sauf que aujourd'hui, la réussite scolaire des enfants a pour condition leur bonne santé mentale, leur bien-être. C'est ça qui est nouveau. Et donc, il y a un nœud qui s'est constitué entre bien-être, autonomie, autour de la question de l'apprentissage. Avec évidemment toutes sortes de problèmes. Et Françoise Dolto, qui parle aussi de ces pathologies, les psychanalystes, il faut dire, ne reçoivent pas les enfants ni les adultes qui vont bien. Donc, ils ne voient que le pathologique, c'est-à-dire, entre guillemets, le mal de la société ou les dysfonctionnements que celle-ci entraîne pour l'individu. Ça ne veut pas dire que la psychanalyse est une chose négligeable, qu'elle n'a rien à dire sur la société, etc., etc. C'est pas ça que je conteste.
Même si la psychanalyse fait débat aujourd'hui en France, mais c'est pas notre débat évidemment aujourd'hui. Alors, une autonomie qui est parfois difficile à acquérir parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes dispositions à l'autonomie. Par exemple, suivant son origine sociale, suivant les emplois exercés par les parents, ça c'est déjà une première question. Et puis cette réussite scolaire dont on est responsable en tant qu'individu ou en tant que famille d'ailleurs. Ça change la donne. Est-ce qu'il faudrait à la Ehrenberg, enfin je crois pas que dans ce livre vous essayez spécialement de donner plein de solutions, mais je vous pose quand même la question comme ça, réhabiliter, si ce n'est l'échec scolaire, enfin une forme de non-réussite pour qu'il y ait moins d'enjeux en fait individuels autour du destin scolaire qui s'avère être un destin parce qu'il conditionne beaucoup ce qui va se passer par la suite, par exemple l'obtention de diplômes pour toute une carrière professionnelle.
Réhabiliter l'échec, je ne dirais pas ça, mais plutôt évidemment le droit à l'échec. Alors de quelle mesure existe-t-il suivant les situations, etc., etc. C'est une chose à voir. Je pense quand même qu'il existe dans l'école un certain droit à l'échec. Et ce qu'il y a derrière aussi votre question, c'est le problème essentiel des inégalités sociales, bien entendu. Donc là, par rapport à la normativité sociale, et c'est pas nouveau, même si la normativité sociale a changé, les inégalités sociales, donc la possibilité de réussir, etc., etc., elles ne se distribuent pas de manière égale entre... voilà. Mais nous avons, bien entendu, des politiques de lutte contre les inégalités qui sont plus ou moins efficaces, qui marchent plus ou moins bien, etc. Mais c'est une préoccupation de l'État démocratique, de l'État républicain. Clairement.
Mais si l'autonomie met les adultes en tension, si l'idée d'hyper-responsabilité vis-à-vis de son dessin met les adultes en tension, que faut-il en penser pour les élèves? Si on ne veut pas penser aux tout-petits qui travaillent en autonomie, par exemple dans les classes de maternelle, on peut s'intéresser aux adolescents, à ceux qui cherchent des stages, à ceux qui en terminale écrivent des lettres de motivation pour Parcoursup, alors pas forcément en autonomie, parce que dès qu'on peut se faire aider, évidemment, on se fait aider dans ces cas-là.
L'autonomie implique d'être aidé.
C'est intéressant d'ailleurs de bien le dire.
C'est un nœud absolu.
Mais c'est pas comme ça que beaucoup de gens le comprennent.
Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut... Pour ça, j'essaie de... Par rapport aux perspectives critiques, soit qu'elles soient socio-historiques, comme Christopher Lasch, dont j'ai parlé, et toute une série d'autres auteurs, mais c'est aussi dans la tête des gens. Bien sûr. Et donc, je crois que pour avoir une idée juste de ce qui se passe dans nos sociétés, il faut un petit peu redresser la barre et passer du normatif au descriptif. Je reconnais que c'est pas évident et raisonner plutôt en termes de tension morale de nos sociétés. Ce qui n'implique pas de ne pas critiquer, bien entendu, notamment au niveau de situations concrètes, etc. Bon, la vie social-démocratique est une vie qui est faite de conflits, donc de critiques, c'est normal.
Non mais, il n'y a que vous, enfin vous et un peu plus, à la Ehrenberg, ou des pédagogues tels que Patrick Rayot, on avait fait une émission sur l'autonomie, qui dit ça, que l'autonomie c'est se faire aider. Pourquoi personne n'arrive à le comprendre? Pourquoi est-ce que la question à laquelle nous renvoie l'autonomie, en tant qu'enfant, en tant que parent, en tant qu'individu dans la société, c'est la question de la solitude?
Oui, absolument. Et c'est un souci réel. Mais en même temps, pour continuer avec l'aide, je pense aux parents. Ce qui s'est développé depuis, je crois, le début du XXIe siècle, ce qu'on appelle les politiques de la parentalité, c'est-à-dire de soutien aux parents, qui passent par des créations institutionnelles, des médiations diverses avec des professionnels, ou aussi des médiations avec l'école, rencontres parents professionnels. Donc, ce sont ces médiations qui travaillent la relation sociale, je dirais, positivement, et donc qui permettent, dans une certaine mesure, de réduire les risques divers dont nous parlons, de solitude, d'échec, etc., etc.
Avec un volet un peu normatif. Et ça, c'est votre collègue Claude Martin.
Excellent sociologue.
Qui l'a analysé à travers plusieurs textes. Et vous le citez d'ailleurs, Alain Ehrenberg. Pour terminer sur cette question autonomie et scolarité, ce qui aujourd'hui travaille beaucoup le débat éducatif, c'est la méritocratie. Elle est contestée, cette idée de méritocratie, par un certain nombre de vos collègues sociologues. Elle est aussi portée par beaucoup de gens qui pense de très bonne foi, d'ailleurs, défendre l'école en disant, voilà, c'est une institution méritocratique. Si on travaille, si on fournit un grand effort individuel, on pourra réussir avec l'école et peut-être changer de classe sociale. Ce qui pose aussi une question, parce qu'on est dans une époque où on trouve ça normal de vouloir changer de classe sociale si on se trouve, par exemple, en classe, dans la classe moyenne ou dans une classe populaire, ce qui n'a pas toujours été le cas. Hein. C'est une vision assez moderne, finalement,
oui, ça, des parcours individuels. Le développement de la mobilité sociale, en gros, c'est à partir des années 50-60, et particulièrement le développement du salariat. Qui est évidemment très... Pardon,
et les 30 glorieuses dont on parlait
donc,
tout à l'heure.
Au cours des 30 glorieuses, absolument.
Pour représenter des possibilités pour des tas de gens. C'est tellement bien décrit dans les choses de Pérec. Oui. Et j'y ai aussi pensé en vous lisant, même si c'est absolument pas cité dans le livre. Vous citez Henri Mandras, en fait, plutôt. Mais pour revenir à cette idée de méritocratie. Parce que finalement, dans cet enfant qui inquiète, c'est aussi cet enfant qui ne pourra pas peut-être tirer parti de son potentiel, tirer parti de ses études, de sa scolarité, pour avoir le destin qu'il mérite. Et cette idée, elle nous imprègne. Même si on la conteste, elle imprègne la plupart des esprits aujourd'hui.
Oui, alors il y a une critique de la méritocratie, disons, partiellement par toute une sociologie de gauche, en gros les supporters de Pierre Bourdieu, c'est-à-dire que c'est... on a affaire là à des stratégies de domination, de reproduction sociale, etc. Donc, une société démocratique, c'est-à-dire où l'aspiration à s'améliorer, à être mieux que soi, etc., etc., nécessairement a pour condition une idéologie de la méritocratie, avec toutes les dérives possibles, et la sociologie des élèves de Bourdieu n'a pas tort, surtout. Mais c'est pas, je pense, l'essentiel de ce qu'il faut penser de la notion de méritocratie. Vous m'avez posé une deuxième question, je vois le lien entre... Ah oui, le lien avec le potentiel, c'est ça.
Il y a cette idée qu'on doit réaliser notre potentiel, de son enfant, avec des qualités qui peuvent être très particulières, d'intelligence, de mémoire, des aptitudes qui ne sont pas forcément reconnues par le système scolaire. On le voit à travers, par exemple, la question des HPI telle qu'elle peut être traitée par certaines associations, des hauts potentiels intellectuels, comme on les appelle aujourd'hui, le terme change au fil du temps.
Oui, c'est-à-dire que un certain nombre de traits qui pouvaient apparaître comme des symptômes du pathologique, aujourd'hui sont reconfigurés dans une idée très différente. Moi, c'est ce que j'appelle l'idéal du potentiel caché, qui est particulièrement incarné par l'autiste d'intelligence normale ou dit de haut niveau, c'est-à-dire que la figure de l'autisme, bien que 80% des autistes n'atteignent pas la maîtrise du langage, pas le langage, etc. La figure de l'autiste a incarné la capacité d'une intelligence différente. Et donc, c'est en même temps cette incarnation par une figure qui est passée donc de l'arriération mentale, etc., etc., au statut de super individu, incarne l'idée que l'autonomie implique toute une série de manières de s'accomplir qui peuvent être singulières, spéciales, sans être déviantes.
Mais
ça c'est une caractéristique, je pense, d'une société où l'autonomie est devenue normative. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, etc., etc. Mais il y a un élargissement des possibilités, disons, d'accomplir sa vie. Je pense à un exemple qui n'est pas tout à fait de ce côté-là, mais qui est quand même, qui était du côté de la psychiatrie, le droit de changer de sexe. En 1950, c'est une psychose. Au début des années 2000, la Cour européenne des droits de l'homme décide que c'est un droit de l'homme et de la femme, bien entendu. Donc, vous voyez, en une cinquantaine d'années, on a une reconfiguration, là c'est un exemple tout à fait extrême, mais on a une reconfiguration d'une série d'éléments pathologiques dans des transformations négatives qui permettent de voir les choses positivement pour l'individu.
pour la plupart des autistes, c'est un handicap qui va exiger une prise en charge, d'ailleurs qui n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'attendent les familles, etc. Et que c'est un grand problème qui n'est pas du tout suffisamment traité dans notre société. Et en même temps, Temple Grandin, vous en parlez voilà. dans votre ouvrage.
Alors, c'est l'incarnation de l'idéal du potentiel caché, Temple Grandin.
C'est quelqu'un qui a vécu une enfance non-verbale et qui, un jour, a pu parler, faire des études, travailler auprès d'animaux et qui, quand on lit sa vie, nous ouvre une porte. On ne se dit pas forcément qu'on est soi-même exceptionnellement doué pour quelque chose qu'on n'aurait pas découvert. Mais, quelque part, elle a pu être reconnue. Et ça ouvre l'idée que il faut savoir regarder les intelligences, les enfants, les individus autrement. C'est quand même une sacrée découverte. Si on ne veut pas parler de progrès, si on ne veut pas mettre de jugement de valeur, ça change un peu le mode de tension dans lequel s'installe l'éducation.
Oui, tout à fait. Donc il y a une reconnaissance, disons, d'une diversité et qui est pris en compte soit par la préoccupation de santé mentale et bien-être, mais aussi par des nouveaux personnels comme les assistants de vie sociale, etc., etc., qui sont là pour aider à l'inclusion d'élèves handicapés. Alors il n'y a pas assez d'AVS, elles sont extrêmement mal payées en dessous de
AESH, je crois maintenant, mais AESH, c'est le même métier.
Oui, voilà, elles sont payées moins de, puisque ce sont des femmes, moins de 1 000 euros par mois, etc., etc. La préoccupation existe, le problème. C'est la réalisation pratique. Mais Temple Grandin incarne bien cet élargissement des possibilités normatives qui se heurte à toute une série de difficultés, évidemment, dans la vie sociale. Et la catégorie HPI vient justement de l'autisme de Temple Grandin, etc. Donc les hauts potentiels intellectuels dont vous avez parlé il y a quelques minutes.
Erreurs et tes peurs, je les efface. Et chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place. Mon seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Et j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Que tous tes amours sois sûr, tes amis sincères. Pour toi un domaine où la haine est la seule étrangère. Je ferai un monde où tout ira bien. Tu seras jamais seul, tu manqueras de rien. Et j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi.
Être et savoir, aujourd'hui, on parle de l'enfant qui inquiète. C'est le titre du dernier ouvrage d'Alain Ehrenberg. Il est publié aux éditions Odile Jacob. Quelle est la place du parent? Si on écoute cette chanson de Thérèse Moïse, qui date de 1996, « Je serai là », on entend une mère promettre à son enfant de le protéger de tout. Et vous écrivez aussi à Ehrenberg que c'est comme ça que se voient beaucoup de parents d'aujourd'hui. Ils sont très responsables d'un individu à protéger. C'est ça la condition des parents d'aujourd'hui et peut-être la condition de leur inquiétude. Qu'ils soient parents d'un enfant qui inquiète vraiment ou qui les inquiète tout simplement.
Bon, il n'y a pas d'enfant sans parents, évidemment. C'est un système, la famille. Et la protection de l'enfant, c'est évidemment devenu un souci central, c'est-à-dire que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, en gros, on a l'enfant qui inquiète, l'enfant qui fait mal, c'est pas une catégorie. Vous avez différents types de sous-groupes, mais c'est à partir de l'après-guerre que se développe le concept de protection au sens contemporain avec l'idée d'enfance en danger. Donc que l'enfant soit auparavant considéré comme coupable, délinquant ou malade mental, là on rentre dans un nouveau type d'action publique. Ça ne veut pas dire qu'évidemment la délinquance disparaît, etc. etc. Et donc je pense que c'est avec le développement de ces institutions que la protection de l'enfance est devenue un enjeu majeur et la première mission, protéger, éduquer, socialiser, c'est évidemment tout un ensemble qui se décline dans une série de facettes. Mais aujourd'hui, il y a une responsabilité parentale sans doute beaucoup plus forte qu'auparavant, et les parents, on l'a évoqué tout à l'heure avec les travaux de Claude Martin, sont aidés plus ou moins bien. En tout cas, il existe des politiques de soutien à la parentalité qui permettent à la responsabilité parentale d'être soutenue institutionnellement.
Et pourtant, on vit une époque où le terme de burn-out parental existe. Je ne sais pas qu'il est devenu commun, mais en tout cas, tout le monde comprend très bien de quoi on parle. Est-ce que les parents peuvent être fatigués d'être soi parents?
Ben oui, c'est une corvée d'être sujet. Voilà. Donc, évidemment, la fatigue, mais aussi l'anxiété, l'angoisse, etc., tout cet ensemble d'éléments sont, me semble-t-il, font partie des tensions normales de cette société. Quand vous êtes dans une société du lignage, il n'y a pas de culpabilité personnelle. Quand, en Afrique traditionnelle, les sociétés traditionnelles, donc par exemple, quand la récolte d'un paysan est foutue pour je ne sais quelle raison, la première chose qu'il se demande, c'est « qui m'en veut ?». Donc la responsabilité de l'action est toujours à l'extérieur. Bon, là, c'est l'esprit des ancêtres, alors que nous, l'esprit de la responsabilité est supposé être toujours à l'intérieur de nous-mêmes.
Mais c'est pas forcément moins bien, mais c'est une tension qu'il faut comprendre en tant que telle.
Voilà, c'est pas moins bien. Et puis surtout, personne ne veut revenir, je pense, enfin sauf peut-être des partis politiques un peu marginaux, dans la société de 1950 ou encore la société de 1930.
Marginaux, je ne sais pas. Bon. En tout cas, il y a une autre forme de réponse qui s'élabore dans l'éducation. Et par exemple à l'école maternelle, je vais vous proposer d'écouter une professeure des écoles qui raconte une petite tranche de vie de classe, de comment elle réagit quand elle a des problèmes, par exemple d'enfants qui se volent ou cassent des réalisations qu'ils sont censés faire ensemble.
Les enfants qui pincent, qui tapent, qui volent, qui dessinent sur le dessin d'un camarade, le font pas parce qu'ils sont méchants, le font pas parce qu'ils ont un mauvais fond. Ils le font parce qu'ils ne savent pas exprimer un besoin. Tous les gestes et toutes les paroles de violence sont des expressions tragiques de besoins non assouvis. Moi aussi, j'aimerais y arriver. Moi aussi, j'aimerais en avoir un. Ça serait vraiment simple, hein, le monde, si on arrivait à exprimer ça aussi simplement. Maîtresse, ça fait 10 fois que je casse mon travail. Je suis vraiment découragée. Pourrais-tu m'aider, s'il te plaît? Même nous adultes, on sait pas faire ça. Donc un enfant d'âge maternel qui a des réactions comme ça, qu'il n'arrive pas à contrôler, si on a envie qu'il les change, on peut faire l'effort de créer le lien avec l'enfant, de comprendre d'où vient cette impulsivité, de nommer avec lui son besoin et de l'aider par la suite à la formuler, tout en lui faisant reconnaître que l'action qu'il a eue a pu blesser un enfant. Tu vois, ça l'a rendu triste parce qu'il y avait mis du temps. Si je reprends l'enfant et que ma réprimande lui fait honte, en plus déjà de la honte d'avoir mal agi, je coupe le lien entre lui et moi. En aucun cas, je lui apprends à ne pas recommencer et en plus, je ternis son image de lui. En lui faisant comprendre ce que ressent l'autre, en lui faisant comprendre que je comprends très bien ce qu'il ressent lui, je crée du lien et on peut s'entendre et on peut vivre en harmonie. Au pays des bisounours.
France Culture, être et savoir. Louise Touret.
Émilie Henrot, dans son compte Qui fait l'école, qu'on peut par exemple suivre sur Instagram. Donc les émotions tiennent une place de plus en plus importante. Je me disais même en l'écoutant, l'enfant qui inquiète pourrait avoir une suite ou dans l'évolution, la socio-histoire que vous faites de l'enfance et de l'éducation. Alain Ehrenberg, vous pourriez parler des émotions qui prennent une place de plus en plus grande. Vous parlez d'ailleurs d'éducation positive. Écoutez. Les émotions, les recevoir, les traiter, c'est en fait un travail énorme, on l'entend à travers les propos de cette professeure.
Oui, tout à fait. Bon, elle dit, on ne fait plus honte à un enfant, c'est-à-dire on est vraiment totalement sorti des problématiques disciplinaires de régulation des comportements quand la distance entre le maître et l'élève était très forte, comme la distance entre parents et enfants, comme la distance entre classes sociales. C'est le sociologue Norbert Elias qui parle de ça. Il dit, nous avons affaire, par rapport à cette distance, à une horizontalisation des relations et en même temps à une informalisation des régulations. Et cette idée, et donc, il faut individualiser l'enfant. C'est ce qui est exprimé par cette professeure. Il faut s'occuper donc de sa psychologie. Et donc, ça veut dire, pour reprendre encore l'expression d'un autre historien, Carlo Ginzburg, on a changé de sensibilité émotive. Et je crois que c'est l'expression nous le dit bien. Il ne faut pas rendre coupable. Bien entendu, il y a des coupables d'action, etc., etc. Mais la première chose, c'est de ne pas culpabiliser, de ne pas faire honte et de prendre l'enfant à travers d'autres types de réformes du comportement.
Mais si je suis bien, toutes vos références à la Ehrenberg, Ginzburg, bon, on est largement au XXe siècle et pas au fin XXe. On n'est sûrement pas aujourd'hui. Est-ce qu'on manque pas d'intellectuels, à part vous, peut-être, et je ne veux pas vous faire trop de compliments, mais est-ce qu'on manque pas aujourd'hui d'intellectuels qui s'intéresseraient à ce régime relationnel, à cette histoire, mais aussi ce présent de la société, du comportement humain qui nous occupe beaucoup l'esprit, qui nous inquiète, qui nous travaille au quotidien. Quand je dis nous, c'est peut-être les parents, les éducateurs, éducatrices, les professeurs. On voit bien qu'on est confronté à ça tout le temps et qu'on manque un petit peu d'outils pour le penser. C'est bien parce que ce livre, je pense, en donne que je vous ai invité.
Oui,
merci. Prenez les compliments.
Merci pour les compliments, mais aussi merci pour le mot outil, parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on ne fait pas une dénonciation bien mal, mais qu'il faut que le sociologue doit. S'il y a une perspective critique, c'est de fournir aux acteurs des instruments d'analyse. Le mot clé du sociologue, comme celui du philosophe d'ailleurs, c'est clarification. Clarification de ce qui se passe, parce que c'est dans la vie sociale, c'est pas souvent des choses fausses ou vraies, plutôt que des choses confuses. Donc je crois que c'est ça l'idée. Bien entendu, il y a d'autres intellectuels, je pense par exemple dans la génération suivante au sociologue Nicolas Marquis, qui a écrit un livre important sur le développement personnel, et là qui fait un travail aussi important sur le coaching, qui est une forme de régulation du comportement dans nos sociétés. Je pense au philosophe psychanalyste Pierre-Henri Castel, par exemple, qui est en train de terminer un livre sur les borderlines et les états limites, et cette question du déplacement de la névrose traditionnelle freudienne au narcissisme aux états limites, ça a été un grand thème de l'analyse de la modernité.
Oui, mais quand vous parlez de Nicolas Marquis, vous parlez aussi d'une critique, et c'est vrai qu'elle existe aujourd'hui, du mercantilisme autour de ces questions de bien-être et de développement personnel. C'est un rayon dans les librairies, là, pour le coup, qui est assez fourni, qui donne pas vraiment des outils, qui donne des méthodes, et c'est tout à fait différent.
Non, vous avez raison.
Comment vous comprenez cette mode, on peut pas le dire autrement, des méthodes de la solutionnite?
Je sais pas si c'est seulement la solutionner, c'est-à-dire qu'on a toute une offre qui va de l'offre d'une psychanalyse de très longue durée jusqu'à des méthodes plus ou moins comportementalistes. Voilà. Donc on a une offre pour gérer nos émotions qui va absolument dans tous les sens. C'est ça qu'on peut constater. Bon, comment les gens font le tri, comment les demandes s'élaborent, bon, voilà, c'est ce qui resterait peut-être à préciser, parce que tout le monde n'est pas perdu quand même dans la modernité. Beaucoup de gens sont stressés, mais pas forcément perdus et pas forcément non plus en manque de repères.
Mais vous pensez pas que entendre de nombreux discours très contradictoires, par exemple sur l'éducation positive ou sur une éducation plus autoritaire, avec aussi des trucs hein, pour agir face parfois à son enfant ou avec son enfant, à l'écoute ou non de ses émotions ou d'une certaine manière, ou même des méthodes beaucoup plus folles. Moi, je traîne beaucoup sur les réseaux sociaux, peut-être pas vous, mais ça peut être aussi de se lever à 4h30 du matin pour avoir plus de temps pour faire ses tâches ménagères et méditer. Donc ça va un petit peu loin dans le comportementalisme. Et ça, ça c'est la note d'aujourd'hui. Il y a aussi des débats.
Oui, oui, bien entendu. Donc là, ça, évidemment, je conteste pas du tout ce que vous dites. Oui, c'est juste.
Merci d'abonder dans mon sens.
Non, je veux dire, j'ai rien à ajouter.
Mais j'entends. Je voulais aborder un dernier chapitre parce que quand on parle de l'enfant qui inquiète, il inquiète aussi parce qu'on l'écoute. Et en fait, l'écoute des enfants, c'est pas seulement une option pour des adultes qui seraient progressistes ou qui auraient envie de s'intéresser à l'éducation. C'est devenu une norme, un peu plus même, un droit pour les enfants. En fait, c'est l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant que la France a ratifié en 1989. On va l'écouter ensemble.
Article 12, participation. Enfin, le principe du respect des opinions de l'enfant donne aux enfants le droit d'être entendus dans toutes les affaires les affectant, en fonction de leur âge et de leur maturité. Ce principe encourage la participation active des enfants à leur propre protection et promotion, en reconnaissant leur capacité à exprimer leur propre vue et à participer à des décisions qui les concernent.
J'aime bien ce petit piano choisi par Camille Mati et c'est Avril Ventura qui disait cet article court. Hein. Alors il a aussi un développement plus long dont les défenseurs des droits des enfants font beaucoup la promotion. On sait que c'est ça qui fait aussi qu'on a des délégués de classe aujourd'hui, même à l'école primaire, qu'on est censé, j'ai dit censé parce que c'est pas toujours le cas, les écouter à tous les étages de la vie scolaire. Cette participation active des enfants, des élèves, c'est quelque chose qui est extrêmement moderne, pas tellement respecté, je le disais, Alain Ehrenberg. Est-ce que c'est la marque qu'on est dans une autre époque ou qu'on n'arrive pas tout à fait à réaliser les ambitions que nous nous sommes fixées comme société?
Oui, mais ça, c'est normal. La vie sociale déçoit de manière tout à fait récurrente. Donc, on n'arrive pas tout à fait, on n'arrive pas du tout, on arrive plus ou moins, c'est toujours comme ça. Mais là, ce qui a été prononcé, vous avez repris l'expression, le mot-clé, c'est participation active, c'est-à-dire que la Convention internationale des droits de l'enfant stipule que l'autonomie de l'enfant est la valeur essentielle et que bon, l'éducation et la prise en charge doit tourner autour de ça. Alors avec ce que vous avez, alors je reviens peut-être juste avant cette question de la participation active, vous avez rappelé d'un côté l'éducation bienveillante, de l'autre côté
elle se donne pas de nom, mais on entend des noms comme celui de Caroline Goldman, Didier Pleu, voilà, que vous citez dans votre article, qui sont plus pour, alors pas exactement pareil hein, du reste, et on dira pas ça ici, mais plus pour des parents dirigistes. Et d'ailleurs, ce qu'ils disent, c'est que ça rassure les enfants. Oui. C'est ce que dit aussi le pédiatre Aldo Nauri, par exemple.
Oui, mais parents qui rassurent, c'est pas forcément parents autoritaires. C'est un parent qui est présent, qui est là comme adulte. Et ça, c'est sûr que c'est une question aujourd'hui pour dans un certain nombre de familles. Mais ça reste toujours la caractéristique essentielle de la protection de l'enfant, de son développement.
C'est intéressant qu'on se dise ça parce qu'on parle d'autonomie des enfants, on parle de droit à la participation active, à décider des choses. Et en même temps, il faudrait que les adultes soient toujours là, toujours présents. Je pense qu'en moyenne, ils le sont peut-être beaucoup plus que les générations précédentes. Par exemple, du début du XXe siècle, hein, d'abord parce qu'il y avait des parents qui partaient à la guerre, il y avait beaucoup plus de drames. On vivait dans une société moins riche et qui impliquait pour plus d'enfants beaucoup plus de difficultés matérielles, mais aussi relationnelles. Combien d'enfants ont été élevés par leurs grands-parents, etc. Et finalement, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec des familles nucléaires plus répandues et un cadre qui semble plus normé, bah, je le répète, elle inquiète davantage. C'est ça, c'est cette tension à laquelle vous nous faites réfléchir et qu'on n'arrive pas à résoudre collectivement. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas du tout à la résoudre collectivement? Est-ce que, par exemple, on ne prend pas un peu d'avance sur ce qu'on arrive à faire? En disant participation active des enfants, bah, on se donne un idéal alors qu'on n'en est pas du tout là collectivement, qu'on n'est pas du tout capable d'écouter à ce point-là les enfants.
Oui, mais c'est surtout que donner un idéal, c'est donner des droits. Et des droits, ils s'appliquent, ils commencent à des droits nouveaux, ça commence à s'appliquer plus ou moins vite ou plus ou moins lentement. Donc là, ce dont on parle, on est dans le monde de l'idéal, c'est-à-dire le monde des transformations, de transformation des idéaux. Maintenant, dans la pratique, il y a tous les obstacles que vous soulignez. Moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est surtout les transformations de l'idéalité sociale dans un langage qui permet d'exprimer les tensions morales de notre société. Voilà. Alors, après, j'ai totalement laissé de côté toute l'analyse un peu empirique, au moins de certains domaines, etc. Mais, bon, il y a des travaux, j'ai pas de travaux qui me viennent en tête, mais il y a des travaux sociologiques, historiques, plus précis, des études de cas, etc., qui permettent quand même de s'informer. Quoique, ce que j'ai remarqué en commençant ce travail, c'est qu'il y a beaucoup de choses sur l'histoire de l'enfance, notamment le classique de Gavarini, La passion de l'enfant, qui est sorti il y a une vingtaine d'années, mais très peu de choses sur l'histoire de la psychopathologie de l'enfant, qui est, à mon sens, beaucoup mal connue et qui mériterait...
Vous le dites dans l'introduction.
Et ça mériterait vraiment des travaux historico-sociologiques... pour en savoir un peu plus.
Il y a aussi une bonne histoire de l'enfance au XXe siècle d'Éric Alary, si ça vous intéresse.
Merci.
Invité dans l'émission, il est historien. Le thème de la semaine d'information sur la santé mentale cette année, c'est le lien social. Réparons le lien social, c'est pas totalement au centre de votre ouvrage, mais sans qu'on se soit expliqué ensemble ce qu'on entend par lien social, parce que c'est toujours pareil, autonomie peut avoir plusieurs sens, lien social également, comment vous entendez, vous, qui vous intéressez à l'histoire de la santé mentale, cette phrase « réparons le lien social pour notre santé mentale » ?
Je l'entends comme une manière de formuler quelque chose qui est, à mon avis, au centre de ce qu'est la santé mentale, c'est-à-dire, ce que j'essaie de montrer dans tout ça, c'est que la santé mentale, dans la mesure où la pathologie concerne la socialisation de l'individu, eh bien, la généralisation du souci de santé mentale, ça veut dire l'intégration des relations sociales dans la santé elle-même. Évidemment, quand vous êtes atteint d'un cancer, vous pouvez avoir vos relations sociales nettement réduites, mais encore une fois, je crois que j'ai dit tout à l'heure, me semble-t-il, c'est une conséquence de la pathologie, ce n'est pas dans le diagnostic. Et là, c'est au cœur du diagnostic. Donc, cette question lien social, santé mentale, les acteurs vous en parleront en permanence, et évidemment, particulièrement les acteurs politiques.
Mais est-ce que le fait d'être un enfant qui inquiète, ou le parent d'un enfant qui inquiète, n'isole pas? Parce que se sentir particulier, être reconnu dans sa singularité, c'est aussi une manière de se trouver isolé. Je ne dis pas de s'isoler soi-même. C'est-à-dire que on est à la fois en recherche de liens sociaux. Les parents veulent que leurs enfants soient scolarisés, hein, avec des AESH, etc. Et en même temps, une fois que le diagnostic est posé, on n'est pas comme les autres, on n'est plus isolé. Et le lien n'est pas forcément aussi simple. Et on voit bien que là aussi, il y a une tension. Qu'est-ce qu'on peut en faire ?
Oui, isolement, singularisation, vous avez raison de souligner qu'il y a des frontières, une zone grise en tous les cas. Je crois que ça se voit en situation, mais en tout cas, il faut aussi rappeler que la capacité à vivre seul est une nécessité aussi de la vie elle-même. Hein. Donc, c'est peut-être plus ambivalent, cette histoire de solitude, que ce qu'on peut le penser, que c'est pas forcément négatif. Bien sûr, si c'est relégation, etc., etc., c'est négatif.
Mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre aussi,
apprendre,
à s'éduquer
à vivre seul.
Ah, c'est intéressant. Ouais. Et finalement, c'est peut-être un
ça peu veut pas dire que ça
un non-dit.
C'est une bonne chose de vivre toute sa vie seule.
C'est non, non, mais c'est peut-être un non-dit de l'éducation. Alors pas à l'école, parce que c'est pas le travail de l'école que de proposer ça, mais de ce qu'on dit aux enfants, du monde qu'on leur présente, de comment on se représente leur intériorité. C'est alors que c'est peut-être une condition pour affronter ou vivre bien ou la vie bonne
le mieux possible
dans le monde d'aujourd'hui.
Dans ce type de vie, oui. Donc je sais pas, je me rends pas compte. mais enfin, on n'entend pas beaucoup ça, mais je suis pas seul à dire à faire ce genre d'affirmation. Hein. Je suis pas seul. J'ai pas de nom qui vienne en tête, mais.
Merci beaucoup, Alain Ehrenberg.
L'enfant. Merci pour l'invitation.
L'enfant qui inquiète est publié chez Odile Jacob.
Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr. Ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar. Vida não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.
Deixe-me, preciso andar.
Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.
Et merci beaucoup à Avril Ventura, adjointe à la production d'Être et Savoir, une émission réalisée par Camille Mathy avec Ludovic Auger à la technique. Et la semaine prochaine, nous nous intéresserons à un sujet qui n'est peut-être pas sans rapport avec la santé mentale, l'amitié. L'amitié au collège, par exemple, comment mener une politique de l'amitié. C'est très, très stimulant. Écoutez-nous mercredi prochain.